Donc en introduisant le thème de la liberté, ce matin, j'ai évoqué deux traditions, la tradition de l'Antiquité et le christianisme, pour montrer qu'une certaine vision de la réalité avait un certain impact sur la notion de liberté. Et maintenant, je voudrais aborder la vision bouddhique au sujet de la liberté. On verra là aussi qu'il y a des différentes nuances, et que ce problème de la liberté est assez complexe, et qu'il a beaucoup d'implications. J'ai remarqué ce matin qu'il y avait, pour l'Antiquité, si vous voulez, le cœur du problème, ce qui était essentiel, c'était le cosmos, pour la chrétienté, évidemment, Dieu, et donc où se situe le bouddhisme. Et puis j'ai aussi ensuite mentionné l'humanisme, avec l'être humain au centre des préoccupations maintenant. Où se situe le bouddhisme, même si évidemment c'est une tradition très ancienne, qui date de la même période que l'Antiquité. Comment est-ce que le bouddhisme se situe? Quelles sont ses préoccupations principales? Je vais évoquer ici un sutra que j'évoque presque chaque fois parce qu'il illustre quelques points importants, je crois, de la doctrine. C'est ce sutra dans lequel un moine qui médite se pose des questions qui pour lui sont très importantes. Notamment les questions quant à l'origine de l'univers, est-ce qu'il est limité, est-ce qu'il est illimité, est-ce que l'univers est éternel ou non. Donc là, il se pose des questions, si on veut, sur la structure même de l'univers, du cosmos. Et puis ensuite, il se pose aussi une question sur le Bouddha, en se demandant si le Bouddha existe après sa mort ou s'il n'existe pas après sa mort. Donc là, la question est située ailleurs, dans le fond, concerne la personne du Bouddha lui-même, qui représente un petit peu le développement ultime, évidemment, dans la tradition bouddhique, et se demande s'il existe ou n'existe pas après sa mort. Donc quand il vient solliciter le Bouddha pour avoir des réponses à ceci, le Bouddha lui répond que ces questions ne l'intéressent pas, que c'est pas là que porte son intérêt. Il lui dit que ces questions, il pourra mourir, ce moine, bien avant d'avoir reçu les réponses à ces questions. Et le Bouddha dit que ça ne l'intéresse pas, ces questions ne l'intéressent pas, parce que c'est des questions qui sont inutiles, qui ne permettent pas de répondre au problème de l'existence humaine. Il dit que ce qui intéresse le Bouddha, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Voilà ce qui est son intérêt. Le reste ne l'intéresse pas. Voilà pourquoi il n'enseigne pas les autres choses. Voilà pourquoi il ne se préoccupe pas de l'univers. Ou même de l'enseigner si le Bouddha existera après sa mort ou pas. Donc on voit ici, quand le Bouddha dit que ce qui le préoccupe, ce qui l'intéresse, c'est la souffrance et la fin de la souffrance, on peut dire qu'ici, il met manifestement l'être humain au centre. On retombe ici dans la dernière phase du développement qu'on a évoqué ce matin, plutôt proche de l'humanisme, c'est l'être humain qui est au centre, et non pas l'univers ou Dieu. Et Dieu aurait pu être, dans la tradition indienne, c'est dans la tradition hindoue, si vous voulez, le centre de la préoccupation. Mais là, il est clairement les limites. Ce qui m'intéresse, c'est le destin et la liberté de l'homme. La souffrance est la fin de la souffrance. La souffrance est la libération de la souffrance. Donc le terme ici que la tradition bouddhique utilise, c'est pas tellement celui de libération, les hindous utilisent plus libération avec moksha. Les bouddhistes utilisent évidemment le terme nirvana, nirvana qui veut dire cessation, cessation de la souffrance, cessation du conditionnement, et aussi le terme qu'on utilise, c'est l'inconditionné. Ce point ultime, si vous voulez, de libération. Donc on peut appeler nirvana, inconditionné, l'impérissable ou le non-né, ce qui ne surgit pas. Et la manière de définir ceci va avoir des implications extrêmement importantes. Ça permet aussi d'évaluer, est-ce qu'on s'arrête en cheminement? Est-ce qu'on s'arrête avant d'avoir réellement réaliser cet inconditionné pour quelque chose qui serait de l'ordre de quelque chose d'agréable, de serein, de joyeux, mais qui ne serait pas cette liberté, cet inconditionné. Donc inconditionné veut dire ce qui ne dépend de rien, qui n'est limité par rien. Et si c'est inconditionné, on ne peut pas dire que ça surgit à un moment donné. L'inconditionné ne peut pas ne pas exister à un moment donné, puis exister un autre. Si c'était le cas, quelque chose qui existe à un moment donné, qui n'existe pas à un autre, à ce moment-là, ceci dépend de quelque chose qui l'a fait surgir. Donc cet inconditionné ne peut pas surgir à un moment donné. L'inconditionné n'est jamais absent. S'il était absent à un moment donné pour surgir un autre, il dépendrait de quelque chose qui fait surgir. Et il ne serait pas le non-né, il serait ce qui surgit à un certain instant. Voilà, cet inconditionné a surgi à ce moment-là. Donc on place le but clairement exprimé. On peut se demander alors comment l'atteindre dans le chemin spirituel bouddhiste, comment est-ce qu'on atteint cet inconditionné? Et là, évidemment, dans la tradition bouddhique, il y aura de nombreuses discussions quant à savoir comment est-ce qu'on peut l'atteindre. Je vais tout d'abord donner un schéma, le schéma le plus traditionnel, comme base de discussion. Donc on peut dire que le chemin spirituel peut être condensé dans ce qu'on appelle les trois piliers, que sont la générosité, la moralité et la méditation. Et chacune de ces pratiques ou de ces piliers met en jeu quelque chose de similaire. Ce qui est similaire, c'est le lâcher-prise. Dans la générosité, il y a un lâcher-prise à l'attachement. Donc la générosité, ce n'est pas le fait de vouloir que quelqu'un soit heureux. Ça, c'est la bienveillance. La générosité, c'est cette capacité à ne pas être attaché. Donc ce lâcher-prise. Le fait de donner quelque chose qu'on ne veut plus n'est pas de la générosité. Et ça, c'est bien reconnu. On ne dit pas à une personne qui se débarrasse de quelque chose chez elle, parce qu'elle est généreuse, parce qu'on la débarrasse de quelque chose. On dit si ça peut être un service, c'est autre chose. Donc, lâcher prise. Dans la moralité, il y a aussi lâcher prise, c'est lâcher prise à la volonté de nuire. Toute intention de nuire à une personne, d'agir contre cette personne ou soi-même, le lâcher prise de cette intention, ceci est la pratique de la moralité. On rend bien compte de ce qu'il y a de similaire dans le fond, dans le lâcher prise à l'attachement et lâcher prise à l'intention de nuire. Et le troisième pilier, qui est celui de la méditation, le lâcher prise à la confusion. Et c'est de ceci dont j'aimerais parler un peu plus aujourd'hui, donc lâcher prise à la confusion. On peut traduire ceci ou expliquer ceci de manière graduelle, où on se rend compte que le méditant va lentement libérer son esprit des diverses entraves. Tout d'abord, on peut imaginer qu'il s'agit de tranquilliser l'esprit, parce que si l'esprit est constamment agité par les choses du passé, les choses du futur, à ce moment-là, il n'y a aucune prise de conscience de ce qui se passe dans l'instant. On va dire aussi qu'il s'il y a constamment des préoccupations pour le passé et pour le futur, il y a une saisie, un attachement à ceci. Donc dans la méditation, tout d'abord, lorsque le méditant va calmer l'esprit, il va se détourner des plaisirs sensuels. Ne pas être préoccupé par ce qui est de l'ordre du plaisir attaché à la vision, à l'audition, au goût, au toucher et à l'odorat. Donc dans la méditation, ceci on l'éprouve assez simplement, nous asseyons les yeux fermés, donc il y a ici une limitation évidemment de ce qui est de l'ordre visuel, parce qu'il y a un choix de ne pas vouloir se préoccuper de ce qu'on pourrait voir. Il peut y avoir des images mentales qui surgissent, et aussi là, on ne va pas s'y attacher, on ne va pas les cultiver. En ce qui concerne l'audition, on ne va pas non plus attacher une importance particulière au son que l'on pourrait entendre, ni faire jouer de la musique par exemple, pour une manière assez agréable de passer 30 minutes en silence en écoutant un bon morceau de musique, mais ce n'est pas ce qu'on choisit, ni d'ailleurs négativement, ni d'ailleurs d'être dérangé par les bruits qui pourraient surgir. On n'y attache aucune importance. Ce n'est pas un rejet qui sera encore une préoccupation, ni un attrait. C'est simplement le fait de ne pas y attacher d'importance. En ce qui concerne le goût, en général, on n'amène pas son pique-nique à une séance de méditation. L'odorat ne cultive pas non plus l'expérience de l'odorat pendant la méditation, on n'y attache pas l'importance. Quelquefois, dans une salle de méditation, il y a diverses odeurs. Quelquefois, on brûle de l'encens, mais quelquefois, il y a des gens qui viennent avec leur propre parfum, leur propre caractéristiques, et là aussi on n'y attache pas d'importance, ni positivement ni négativement. Et puis en ce qui concerne le toucher, évidemment ceci est plus marquant puisqu'il y a la présence du corps avec quelquefois les douleurs qui peuvent surgir dans certains endroits. Donc il va s'agir dans la méditation de pouvoir accueillir ceci sans y attacher de l'importance. En se libérant des préoccupations de ce qui touche les expériences sensorielle, alors l'esprit est dégagé, il est plus libre aussi. Et à ce moment-là, on peut approfondir la méditation, ne pas s'attacher aux pensées également, aux concepts, aux notions, aux points de vue. Et lorsque l'esprit ne s'attache pas non plus aux points de vue, aux notions, aux croyances, à ce moment-là, il peut lentement se libérer de la confusion. On verra sur quoi porte cette confusion. Donc il y a là un cheminement. Lentement, on pourrait dire que l'esprit se dépouille de ce qui pouvait le conditionner, l'entraver, pour se trouver dans un état de dépouillement, de dessaisie, et qu'on appellerait l'inconditionné au nirvana. Donc avec des descriptions, ici évidemment extrêmement résumé, on trouve des manuels extrêmement détaillés qui décrivent les différentes étapes, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, comment est-ce que l'on développe ces différents aspects. La tradition bouddhique est extrêmement riche dans ces détails en ce qui concerne le développement. On pourrait dire, voilà, on a finalement est arrivé au terme de ce chemin, voilà c'est vrai, le 13 janvier 2013, voilà, j'ai finalement atteint l'inconditionné, de le mettre dans son agenda, électronique ou pas d'ailleurs. Voilà, donc on a atteint cet inconditionné. Et dans la tradition du bouddhisme ancien, on décrit ceci en quatre étapes particulières. Quatre étapes qui sont l'approfondissement du chemin spirituel. Qui sont vraiment ces dernières phases qui permettent d'atteindre l'éveil. Je vais vous donner les noms, puis je vais les décrire un petit peu. Donc la première étape, est ce qu'on appelle donc entrer dans le chemin. En pali, c'est un sotapanna. Et entrer dans le chemin, c'est déjà un degré profond de réalisation. Enfin, l'entrée dans le chemin spirituel, mais ceci demande quand même une très longue pratique. On verra ce que ça implique comme développement dans la pratique de la méditation. Ensuite, le deuxième niveau, on appelle des personnes qui reviennent une fois, qui doivent encore revenir une fois dans une existence avant d'être un éveil. C'est une manière d'évaluer. Le troisième est celui ou celle qui ne revient pas. On appelle anagami, qui veut dire les non-revenants, ceux qui ne reviennent pas. Et finalement, l'état d'éveil qui est appelé arhat ou arahant. Donc ces quatre étapes marquent la progression profonde du chemin spirituel. Au début, quand j'ai parlé de se dégager de l'expérience sensorielle, tout ça c'est l'introduction, mais là on est dans le fruit. Donc ces quatre étapes, c'est les étapes du fruit, ce à quoi mène la pratique. Et donc en ce qui concerne le premier, le sotapanna, ou l'entrée dans le chemin, ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne s'est libérée de la notion du moi. S'est libérée de trois choses. De la notion du moi, des doutes, et de l'attachement au rituel. C'est-à-dire que c'est dans les deux premiers. Dans l'entrée dans le chemin, aussi le deuxième stade de celui qui revient une fois, il y a le fait de dépasser ceci, donc la notion du moi, de doute, ce sera l'attachement au rituel. L'attachement au rituel veut aussi ici dire une sorte de vision magique qui ferait qu'on attendrait qu'un rituel ou quelque chose à l'extérieur de soi puisse amener la libération. Donc on dit qu'au premier stade, la personne pourrait devoir revenir jusqu'à 7 fois, mais pas plus. En cette naissance, la personne atteindra certainement l'éveil. Pour le deuxième stade que j'ai décrit, donc celui qui revient qu'une fois, la personne au maximum devra revenir une fois. Pour le troisième stade, il y a des personnes qui ne reviennent pas, donc cette personne se libère à ce moment-là des désirs sensuels et de la malveillance. Quand on dit qu'elle se libère, ce n'est pas momentané, c'est qu'on a coupé le courant. Donc là, okay, au troisième stade, elle se libère des désirs sensuels et de la malveillance. Et au dernier stade, la personne se libère, disons, de l'attachement à ce qu'on appelle les sphères matérielles. C'est des niveaux de concentration subtils avec des béatitudes profondes, deux niveaux de méditation, d'expérience méditative. Donc ce dont elle se libère, c'est de deux niveaux d'expérience méditative profonde liés à ce qui est encore de l'ordre de la forme, et aussi lié à ce qui est immatériel, degré de méditation encore plus profond, concentration. Ensuite, la personne se libère aussi de l'orgueil, ensuite de l'agitation, et finalement de l'ignorance. À ce moment-là, la personne atteint l'état d'éveil, donc l'état d'arhat, la libération. Donc on voit dans ces aspects dont on se libère dans le cheminement spirituel, quand on dit se libérer à nouveau ici, ça veut dire de manière définitive. Il y a dans la méditation des expériences, quand les éléments dans l'esprit et dans l'équilibre, de manière naturelle, ceci peut arriver à n'importe quel moment de la pratique, où à ce moment-là il n'y a ni désir, ni aversion, ni confusion, où il peut y avoir une expérience de ce qu'on appelle le nirvana momentané, instantané, c'est-à-dire une expérience de liberté intérieure qui est tout à fait authentique. Et c'est aussi ce qui donne foi dans le chemin. Quand on peut avoir des expériences de ce type-là, on se rend compte qu'il y a une libération qui est tout à fait possible. Mais ceci dépend de causes et de conditions ici. Ils sont rassemblés dans un état d'équilibre subtil. Mais ensuite, parce qu'on n'a pas coupé réellement les mauvaises habitudes, pour prendre un terme très simple, eh bien, on va retomber si dans le désir, l'attachement, la confusion. On n'a pas été coupé. Mais dans les 4 étapes que je viens de vous décrire, quand quelque chose est abandonné, c'est abandonné de manière définitive. La personne, par exemple, qui entre dans le chemin, qui élimine le doute. Le doute, il est au sujet du chemin spirituel. La personne, à ce moment-là, elle sait qu'il est possible d'atteindre la libération. C'est que ce chemin-là permet de l'atteindre. Elle n'a aucun doute. Et ce doute ne ressurgit pas, il ne dépend pas d'une expérience particulière à un moment donné. Quant au troisième stade, elle se libère des désirs sensuels. Si c'est aussi important de détailler un petit peu ceci, on a l'impression quelquefois que dans la méditation au chemin spirituel, il s'agit de se détacher comme s'il fallait développer une attitude ascétique. Détaché de tous les plaisirs sensuels, qu'on devienne une sorte de personne ascétique, rigide, qui n'a plus de plaisir dans rien du tout, détaché, indifférente. Non, ça c'est une manière erronée et assez naïve de voir ceci. S'il y a ici un détachement des plaisirs sensuels, c'est simplement parce qu'il y a une découverte de quelque chose qui existe à un niveau beaucoup plus profond. Et à ce moment-là, les désirs sensuels semblent quelque chose d'assez peu fascinant. Il y a quelque chose de tellement plus riche, tellement plus profond. Vous voyez que ce n'est pas une sorte d'ascèse où on se forcerait par discipline à ne pas vouloir, mais simplement l'intérêt disparaît naturellement pour ceci. Donc il est coupé au troisième stade. Aussi parce qu'on voit le côté éphémère, complètement éphémère, ces choses changent d'instant en instant, donc on n'investit plus ces expériences-là d'une valeur qu'elles n'ont pas naturellement, qu'elles ne peuvent pas avoir parce qu'elles changent constamment. Quand on est à ce troisième stade, la malveillance est aussi éliminée. Donc là aussi, c'est de manière définitive. Non pas par discipline, mais on peut imaginer, si on se rappelle ce qui a été éliminé jusque-là, la notion du moi a été éliminée par exemple. Les désirs sensuels aussi. Donc la malveillance qui en général peut être motivée par la compétition avec une autre personne, et certainement par l'attachement au moi, ici, elle n'a plus raison d'être, cette malveillance. Donc ceci est aussi mis d'une manière naturelle. Eh bien, je ne vais pas approfondir ceci, d'ailleurs je n'ai pas spécialement étudié ces choses qui sont éliminées ici dans ce contexte-là, mais c'est intéressant de voir que l'orgueil est éliminé à ce moment-là, en huitième position. Et l'orgueil est éliminé assez tardivement dans le chemin spirituel. L'agitation aussi. Bon, évidemment, l'agitation à ce niveau-là, c'est une agitation extrêmement subtile. Et finalement, l'ignorance, donc l'ignorance qui peut inclure évidemment beaucoup de choses. Et cette manière d'élaborer cette liberté est quelque chose qui est évalué dans la tradition Theravada. En Birmanie, par exemple, on évalue où les personnes sont dans leur chemin. Quelquefois, on dit, voilà, moi, cette personne, on ne va pas l'annoncer sur le tableau noir. On dit, tiens, voilà, tel et tel a atteint cet état ou cet autre. C'est des choses qui concernent que la personne elle-même, évidemment. Ou les personnes dans leur discussion ne vont pas dire, voilà, moi, j'ai ce niveau-là, etc. Comme si on montrait à quel certificat on a atteint. Ça n'a rien à voir avec ceci. Et donc, en plus, ça serait assez... nuisible pour la pratique de chaque personne. Mais quand même, le maître va évaluer le niveau de réalisation parce que ceci a une certaine importance dans la manière de vivre. Alors on entend ces termes-là, la personne a atteint ce niveau-là ou cet autre-là. Évidemment, ces appréciations sont quand même assez difficiles à faire, à savoir... On n'a pas encore, ni même les neurosciences, inventé une manière d'aller voir quelles sont les choses qu'on a coupées dans le cheminement sur l'éveil. Bon, ça serait tardé d'ailleurs avec les avancées. Mais... Voilà, on pourra avec certitude pouvoir dire voilà, cette personne à ce niveau-là. Mais, donc voilà, c'est quelque chose qu'on utilise, qui est important, mais qui est évidemment aussi légèrement dangereux. Comment évaluer, évidemment, la réalisation d'une personne, même pour un maître extrêmement compétent qui a beaucoup de méditants, donc qui voit beaucoup de cheminements spirituels. Quand j'imagine certains maîtres birmans qui ont des élèves avancés en grand nombre, qui voient beaucoup de cheminements, qui voient bien comment les choses se passent, donc évidemment, c'est aussi leur donner une grande expérience, mais la conscience humaine est quand même quelque chose de subtil. Et aussi la manière dont on va exprimer, décrire sa pratique est quelque chose de pas si simple, même si à ce niveau-là, il y a des éléments assez clairs. Donc difficile, mais néanmoins quelque chose qui est fait, et qui est développé aussi, on va marquer les différentes pratiques, qu'est-ce qui dans la pratique va permettre de se libérer de la notion du moi, du doute, de l'attachement rituel, etc. Ceci doit être bien défini. On voit des manuels extrêmement détaillés à ce sujet. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange dans ce cheminement, c'est que si on réfléchit à comment on avait défini la liberté dans la tradition bouddhique, c'est l'inconditionné, le non-né, mais là quand même ça dépend de tellement de choses, ça semble même extrêmement conditionné, parce qu'il faut se détacher de tout, ça demande la condition la plus grande, puisqu'il faut éliminer tellement de choses. Donc on peut se dire, mais enfin quand même, c'est un peu bizarre, on prétend atteindre un inconditionné, et cet inconditionné dépend de tellement de choses. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en créant des causes et conditions, on arrive finalement à quelque chose qui ne dépend pas de causes et de conditions, quelque chose qui n'est pas né, quelque chose qui n'a jamais été absent. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui n'est pas cohérent. Alors la tradition plus tardive s'est beaucoup penchée sur cette question en disant mais comment est-ce que c'est possible de poser un inconditionné, une liberté inconditionnée, et de décrire une approche qui serait tellement graduelle, qui demande tellement de causes et conditions. Et nous le savons tous par nos pratiques. Il faut plus qu'une journée de pratique en général pour atteindre cet inconditionné, même plus que deux. Donc ça veut quand même dire que ça semble dépendre de beaucoup de causes, cette condition. Donc si on pratique quelque chose, un chemin graduel qui va créer des causes et conditions, il est impossible d'atteindre ce qui ne dépend pas de causes et conditions. Aucun cheminement ne permettrait d'atteindre un inconditionné. C'est incompatible, ça ne va pas, c'est pas possible. Donc si on pratique des causes et conditions, bien bravement même pendant des années et des années de méditation, ces choses-là ne vont jamais, jamais permettre d'atteindre l'inconditionnement. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si on pratique rien, on n'atteint pas l'inconditionné non plus. D'abord, on a beaucoup d'exemples de gens qui ne pratiquent rien, on ne peut pas dire qu'elles vont atteindre l'inconditionné. Donc on est dans une situation un peu étonnante. Si on pratique, on n'atteindra jamais l'inconditionné. Si on ne pratique pas, on n'atteindra jamais l'inconditionné. Donc, on est dans une impasse. Ou est-ce que ça veut dire que cet inconditionné est simplement, dans le fond, une utopie, c'est une sorte d'illusion, quelque chose comme ça qui nous fascine, qui nous occupe. C'est assez bien d'avoir cet idéal, dans le fond, mais cet idéal, il est juste insoutenable, parce qu'il n'a pas de sens. Alors on peut essayer de rendre le chemin un petit peu plus subtil, un petit peu plus de ceci ou de cela, mais on sera toujours dans les causes et conditions pour atteindre ce qui dépasse les causes et conditions. Ce qui évidemment est le point de vue de la plupart des personnes, hein, qui disent de toute façon ces choses-là, c'est le nirvana bouddhiste ou etc. Tout ça, c'est quand même des histoires. Quoi. C'est des contes de fées pour les enfants bouddhistes. Quoi. Et il est bien de se poser la question. Parce qu'évidemment, on peut vouloir se convaincre de quelque chose parce que c'est bien, mais il ne s'agit pas de ceci. D'envisager vraiment le problème dans toute sa profondeur. Parce qu'il est vrai que la méditation demande un grand engagement, et nous savons tous combien ça demande de détermination et autres. Donc il s'agit de déterminer quand même, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est placé de manière juste, ou alors est-ce que c'est simplement parce que j'ai envie de me convaincre de quelque chose pour éclairer un petit peu ma vie. C'est sympa d'imaginer qu'il y a une libération, un nirvana, ça allège la perspective de l'existence. On ne va pas accuser la tradition bouddhique de nous tromper, mais alors est-ce que on se trompe soi-même en voulant se convaincre de ceci? Et dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait en envisageant le chemin comme je l'ai décrit, pas à pas, sans d'ailleurs aller dans tous les détails de la manière dont on pourrait le décrire? On est parti d'un point de vue très simple, on est parti du point de vue de ce que nous connaissons, c'est-à-dire d'un monde conditionné, le monde dans lequel nous vivons, limité, conditionné, entravé si vous voulez. On est parti de ceci. Et on a essayé, avec ces éléments-là, de créer un inconditionné. Donc on a pris les éléments qui ne sont pas appropriés. On ne peut pas créer un inconditionné, ça n'a pas de sens, et le créer au moyen des éléments de ce que nous connaissons, qui sont les moyens de la causalité. On cultive ceci pour atteindre ceci. On fait une chose pour atteindre un fruit. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons, conditionné. Voilà. On prépare le petit déjeuner pour manger le petit déjeuner. Monde du conditionnement. Donc, en partant de ce point de vue, en disant voilà la réalité, voilà ma réalité ou une autre réalité, et maintenant, je vais essayer avec ceci d'imaginer un inconditionné. C'est impossible. C'est impossible. On s'appuie, on se base sur la confusion pour essayer d'atteindre quelque chose, de décrire quelque chose qui est libre de toute confusion. On emploie ces éléments de la confusion pour déterminer ce qui serait au-delà de la confusion. On utilise le conditionné pour essayer de déterminer l'inconditionné. Ça ne joue pas. Mais maintenant, si on envisageait le chemin spirituel depuis l'autre perspective, c'est-à-dire si on l'envisageait depuis l'inconditionné, qu'est-ce qui se passerait? Alors, soit le conditionné est réel, l'inconditionné, il ne peut pas exister, Et si on dit, dans le fond aussi, c'est vrai qu'il y avait un inconditionné, il y avait une liberté inconditionnée. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour le chemin spirituel? Qu'est-ce que ça voudrait dire comme perspective à l'existence? Alors, imaginons que l'inconditionné est quelque chose de réel, on verra ce que réel veut dire dans ce contexte. Alors, à ce moment-là, l'inconditionné, il n'est pas né, il n'est pas créé, il n'est jamais absent. Donc, il est toujours déjà là. Ça veut dire qu'il n'est pas à atteindre et qu'il n'est pas atteignable par des causes et conditions. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire pour l'atteindre. Ça veut dire qu'une pratique de la méditation est complètement inutile dans le cheminement pour atteindre l'inconditionné, puisqu'il n'y a aucun pouvoir qui permet de révéler l'inconditionné. Donc l'inconditionné serait réel entre guillemets, ce qui veut dire que s'il a toujours déjà été là, le conditionné lui n'existe pas réellement. Le conditionné lui, c'est lui qui est de l'ordre du rêve, c'est lui qui est de l'ordre de l'illusion. C'est pas l'inconditionné qui est illusoire, c'est le conditionné, c'est le monde dans lequel nous sommes enfermés, c'est la notion du moi. Tout ceci n'existe pas réellement. Donc à ce moment-là, le chemin spirituel, il est vu différemment. Il est vu que l'entrave, le conditionné dans lequel nous croyons être enfermés, ceci est illusoire, ceci n'est pas réel. Que d'une certaine manière, la seule réalité qui est la nôtre, la nouvelle réalité, il s'agit de déterminer, c'est le fait que nous sommes libres, que le fait que nous ne sommes pas conditionnés. Mais comme nous nous attachons à cette illusion d'être conditionnés, d'être limités, d'être entravés, alors voilà ce que nous croyons. Nous croyons que nous sommes limités, entravés, conditionnés. Et nous essayons alors, nous nous efforçons dans le chemin spirituel d'utiliser ces causes et ces conditions, ce conditionnement, pour sortir de l'entrave. Mais ceci nous enferme, puisque en donnant, en utilisant cette causalité, en utilisant ces entraves pour essayer de s'en débarrasser, on leur donne réalité. En pratiquant le chemin spirituel, on donne réalité aux conditionnés qu'on espère dépasser. Et après, on dit ça ne marche pas. Donc l'inconditionné, évidemment, c'est un terme un peu bizarre parce qu'il est situé par rapport à un conditionné, une manière de s'exprimer. Si vous voulez, on pourrait dire que l'inconditionné n'existe pas dans le sens où il serait l'absence de conditionné, puisque le conditionné n'existe pas. Donc l'absence de conditionné ne veut pas dire quelque chose de spécifique. Mais ce terme est judicieux dans le sens où il est formulé, créé, depuis le conditionnement, parce que c'est de là qu'on essaie de réfléchir. C'est de là, c'est la terre dans laquelle nous nous trouvons. Mais le problème, c'est que c'est pas en s'appuyant sur cette terre-là de confusion qu'on peut la dépasser. Donc le chemin spirituel, la pratique de la méditation, n'a de valeur que si elle n'est pas censée mener quelque part. Que si elle est déjà la pratique du fruit, du résultat, elle est l'expression de cette liberté. Donc elle doit être complètement inutile. Si elle est utile, alors on enferme nos conditionnements. Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Pour ça qu'on a placé le contexte ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que dans la tradition antique, la caricature que j'en ai donnée, il est clair que ce qui était réel, ultime, c'était le cosmos, l'ordre cosmique, et que ceci était la valeur. C'est dégagé de ceci dans le christianisme, c'est Dieu qui est devenu la valeur. D'ailleurs, dans le christianisme, on peut dire que ce monde cosmique, etc., a peu d'importance, puisque, nous aussi, on prend notre écart qui dit « la créature est pur néant », il n'y a pas d'attachement, la créature, tout ce que Dieu a créé, est pur néant. Pourquoi? Parce que elle détient son être dans l'autre, c'est-à-dire de Dieu. Donc, seul Dieu est la réalité dans ce cas-là. On a vu l'humanisme qui met l'homme au centre. Et puis maintenant, on aborde le bouddhisme, d'abord d'une manière assez simple, traditionnelle, et puis on essaie d'approfondir un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cet approfondissement? C'est la réalité du conditionné même qu'on a dépassé. En disant, ce conditionné, ce monde limité, entravé dans lequel nous croyons nous situer, c'est ce qu'il s'agit de dépasser et de voir que ceci n'a pas de réalité pour que finalement la réalité qui puisse rester soit celle de l'inconditionné. Car chaque fois, on a mis quelque chose d'autre en question, qu'on a dû dépasser. Ici, c'est la réalité du monde dans lequel nous trouvons. Et à ce moment-là, cette liberté inconditionnée, qui veut dire, exprimée en termes bouddhiques rigoureux, qui nous permet de réfléchir de mille manières, mais dans la tradition bouddhique, on dit que la réalité dépasse ou n'est pas saisissable en termes d'existence et de non-existence. Donc il y a cette liberté inconditionnée que dans la mesure où la réalité du monde dans lequel nous trouvons est elle-même complètement mise en question. Et s'il n'y a pas cette réalité du monde dans lequel nous vivons qui serait mise en question, l'inconditionné n'a pas de possibilité, n'a pas de sens. C'est pour ceci qu'une vision du monde qui placerait le monde dans lequel nous trouvons comme réel ne permettrait pas la liberté de l'inconditionné. Si le monde dans lequel nous vivons est réel, c'est peut-être bien une chose, c'est peut-être bien la réalité, c'est ce qui nous semble peut-être la chose la plus certaine. À ce moment-là, parler de liberté inconditionnée n'a pas de sens. Donc tout système, toute vision d'un monde qui verra ou qui affirmera la réalité du monde dans lequel nous trouvons, elle ne pourra pas poser une liberté inconditionnée. Donc dans ce sens-là, le bouddhisme et l'hindouisme nous sont très proches d'ailleurs, en plaçant l'irréalité du monde dans lequel nous trouvons, et à ce moment-là, il y a la possibilité de cette liberté inconditionnée. Encore une petite remarque, stopper l'opposition avant qu'elle surgisse, c'est que dans le fond, quand Maître Eckhart dit « la créature est pur néant », qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que tout le conditionné est pur néant, n'existe pas réellement, puisque seul Dieu existe, puisque le conditionné de la créature reçoit son être d'un autre, c'est-à-dire de Dieu. Donc, de la même manière, pour que dans la tradition mystique chrétienne ici, chez Maître Eckhart, il y ait une sorte, c'est pas la liberté qu'on parle, mais c'est une union à Dieu, pour qu'elle soit possible, il faut aussi que la créature soit pur néant. Et à ce moment-là, l'éveil mystique, si vous voulez, dans le christianisme, devient une possibilité. Donc lui aussi, lui et certainement d'autres mystiques chrétiens, je ne connais pas la théologie chrétienne, arrive à la même conclusion. Arrive à la conclusion non pas par une réflexion logique, mais dans leur expérience méditative. Pour continuer sur notre écart, puisque je l'évoque ici, dans son sermon qui est magnifique, qui s'appelle « Heureux les pauvres d'esprit », parle de la pauvreté, il dit qu'il explore avec une immense richesse. Il dit être pauvre, c'est ne rien avoir, ne rien vouloir, ne rien savoir, des saisies complètes. Que tous les méditants bouddhistes n'auraient pas de peine à comprendre, ou même à accepter. Maintenant, dans le chemin bouddhiste, on peut se dire alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans notre pratique ? C'est quand même un petit peu ennuyeux tout ça. Alors, on a vu, si on pratique, on n'arrive nulle part. Si on ne pratique pas, on n'arrive nulle part. Donc, voilà, on est assez pris au dépourvu. Mais, si vous voulez, c'est par la pratique elle-même qu'on va arriver à rendre la pratique inutile, qu'on va arriver à avoir cette sensibilité où tout d'un coup, on ne demande plus rien à la pratique. C'est pas par la non-pratique, parce que la non-pratique, elle est dans le monde de la causalité. C'est ce que j'ai dit, on fait son petit déjeuner pour pouvoir le manger. Dieu merci, j'espère qu'on va continuer à le faire. Il ne s'agit pas de dire non, tout ça c'est conditionné, je laisse tomber. Pas du tout. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Donc, de rien faire n'amènerait pas à cette approche de l'inconditionné, mais c'est la pratique elle-même, dans sa rigueur, dans sa sensibilité qui va nous permettre lentement de nous dégager de tout vouloir conditionner, de tout vouloir atteindre, changer, transformer, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose atteindre, changer, transformer. Mon vieux maître tibétain disait, ceux qui croient que le samsara est à éliminer et le nirvana à atteindre sont dans la plus profonde confusion. On pourrait dire dans chaque expérience, quand on croit qu'une expérience méditative, voilà, j'ai ceci, je dois éliminer. Il y a de la somnolence, il faut que je l'élimine. Il y a de la tension, il faut que je l'élimine. Il y a de l'agitation, il faut que je l'élimine. Quand on est dans cette attitude-là, on est dans l'attitude qui nous maintient enfermés. On va pouvoir peut-être développer le calme, la tranquillité, la joie. Mais c'est pas ça, non. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de cette liberté, c'est autre chose. Donc à chaque instant de notre méditation, on est confronté avec est-ce qu'on va essayer de manipuler pour des petits gains, comme ça, dans le conditionné. Voilà. Pourquoi pas? Ou bien est-ce qu'on est dans une exploration plus rigoureuse? Et à ce moment-là, on essaie de s'ouvrir totalement à ce qui est là, quelle que soit la chose qui soit là, la tristesse, l'angoisse, la peur, la joie, la béatitude, quelle que soit l'expérience, elles sont au même niveau irréel. Si on s'attache à une joie irréelle, on peut s'attacher encore plus, on peut se conditionner bien plus par une profonde béatitude irréelle. Au moins, la douleur, on a essayé, on a envie de se questionner à son sujet. Donc, si vous voulez, pour prendre une image, dans ce cheminement spirituel, on pourrait partir en cheminant d'une manière très concrète, sur un sol concret, étant soi-même concret avec des gens concrets, et plus on chemine, moins on devient concret, moins le chemin sur lequel on chemine est concret, jusqu'à ce que finalement on réalise qu'on a toujours déjà été là. Pour résumer ceci dans une phrase assez complexe, que pour passer du samsara au nirvana, ou du conditionné à l'inconditionné, ceci nécessite un saut impossible à réaliser, parce qu'il a toujours déjà été réalisé. On ne peut pas le faire, il n'est pas possible de sauter du conditionné à l'inconditionné, parce que ça a déjà été réalisé. Et le fait de vouloir le faire nous maintient dans la confusion. Quand même assez brièvement aborder le problème de la liberté dans la tradition bouddhique. Donc un problème quand même d'une grande profondeur, mais qui a aussi de nombreuses implications. C'est pour ceci que pratiquer la méditation comme nous le faisons, c'est très bien, mais il faut quelquefois quand même voir dans quelle perspective on peut pratiquer. Ceci pour avoir l'attitude juste à chaque instant de la méditation. Cette attitude juste, elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. La recréer, on est là à chaque instant, le défi est là à chaque instant. Soit on va s'attacher à vouloir améliorer, transformer, soit on va essayer de rester ouvert comme si tout avait déjà été accompli.